Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Startup, l'émission dédiée aux startups. Aujourd'hui, je reçois Timothée Rambaud, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Co-fondateur et CEO de Legal Start. Alors, vous allez nous présenter, c'est une plateforme de services juridiques innovantes, puisque vous innovez à destination des entrepreneurs et des particuliers, avec un petit chiffre notable, donc créé en 2013 et puis mis en service, c'est ça, en 2014. C'est plus de 400 000 entrepreneurs que vous avez accompagnés. Oui, je vous oublie 3-0, ça fait un
petit
peu
détail.
Beaucoup. 400 000 entrepreneurs que vous avez accompagnés depuis 2014, c'est non négligeable. Alors, pouvez-vous déjà nous présenter un petit peu cette plateforme?
Oui, avec plaisir. Donc, LegalStart.fr, c'est une plateforme de services juridiques et administratifs destinée aux entrepreneurs et aux petites boîtes, plutôt que, non pas aux particuliers, c'est vraiment les entrepreneurs.
D'accord.
Et les TPE. L'objectif et l'ambition de LegalStart, c'est d'accompagner l'entrepreneur de A à Z, depuis la création de sa boîte et puis tout au long de la vie de son entreprise, dans ses problématiques diverses et récurrentes. Ça va être la création de son entreprise, l'embauche d'un salarié, la protection de sa marque, la formalisation de son assemblée générale annuelle, etc., etc. Donc tous ces services et tous ces besoins qui sont relativement standards et qui constituent le quotidien administratif de l'entrepreneur, qui ne présente aucun intérêt, en fait, qui ne contribue pas à la valeur ajoutée de l'entrepreneur.
Oui, c'est une perte de temps.
C'est une perte de temps, d'énergie, c'est complexe, c'est anxiogène, c'est cher. Et tout ça, on a voulu le simplifier en proposant une expérience utilisateur super simple, super rapide, au bon tarif, donc pas cher, quoi, grâce à la technologie et à l'accompagnement. Donc c'est une plateforme tech, donc c'est un service. Vous allez sur legalstart.fr, vous cherchez le service dont vous avez besoin. Par exemple, vous voulez créer votre boîte, vous voulez créer une SAS. Vous répondez à un petit questionnaire en ligne, c'est ultra intuitif. Si vous avez besoin d'aide, il y a des gens qui vous accompagnent. Vous sélectionnez le type de formule et d'accompagnement dont vous avez besoin. Vous payez en ligne, vous finalisez votre dossier, vous renseignez vous téléchargez vos justificatifs, etc. Et c'est fini. Et quelques jours plus tard, vous allez recevoir le résultat de votre démarche. En l'occurrence, là, on parlait d'une création de boîte. Donc, ça va être le CABIS de votre entreprise. Et c'est parti, vous pouvez vous lancer.
Donc, vous misez sur la simplicité et la rapidité, en fait.
Et vraiment, la technologie est le moyen de simplifier d'automatiser et donc de simplifier cette expérience utilisateur qui, d'habitude, est ultra pénible. Et comme je disais, ça prend du temps, donc c'est chronophage, c'est anxiogène parce qu'on n'y comprend rien, et quand on est entrepreneur, il vaut mieux se former sur le business plutôt que sur les démarches administratives. Donc par défaut, pour la majorité des entrepreneurs, ils savent pas comment adresser ces besoins-là.
Bien sûr.
Et donc on le fait pour eux de manière super simple et super rapide, quoi. Et en plus de la technologie, on a une équipe d'experts, donc les experts à Legal Start, qui accompagnent les entrepreneurs et qui répondent à toutes leurs questions, tout au long de leur démarche, quoi.
Donc, en gros, du transactionnel, one shot, et puis des accompagnements aussi. Donc, vous avez les deux phases, en fait. Vraiment, les deux services. Mais souvent, l'un va avec l'autre, en fait.
C'est ça. En termes de business model, il y a deux choses. Il y a des besoins ponctuels.
Spécifiques.
Spécifiques, précis. Je veux créer ma boîte, je veux embaucher un salarié, je veux protéger ma marque, je veux faire mon âge annuel, etc. Ça, c'est un besoin spécifique. Dans ce cas-là, c'est proposé de manière transactionnelle. Donc, vous venez, vous sélectionnez, vous payez et vous repartez. Et en plus de ça, comme je disais, l'ambition de LegalStart, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans la durée. Et pour ça, on a mis sur pied, on a développé des services d'accompagnement sous forme d'abonnement. Donc, sur de la comptabilité, sur de l'accompagnement juridique administratif, etc., etc. Et donc, le business model, il a vraiment deux jambes et il est assez équilibré entre les deux. C'est un business model hybride, transactionnel et abonnement.
D'accord. Alors, comment c'est créé cette start-up? Donc, on va y revenir. Juste, j'aimerais parler de votre parcours. Donc, prépa scientifique à Paris, vous avez intégré les mines, hein, Paris Tech. Vous êtes parti à New York, vous avez travaillé chez BNP Paribas. Ensuite, vous avez rejoint Goldman Sachs. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre ouais. parcours et puis nous expliquer la création de Legal Start?
Avec plaisir. Donc le parcours en fait assez assez généraliste au final. Donc j'ai fait comme vous l'avez dit une prépa scientifique, une école d'ingénieur, une bonne école d'ingénieur.
Très bonne.
Et généraliste en fait. Mm. Je me souviens il y avait je crois 20 ou 25 spécialités possibles ouais. à la sortie de l'école pour une centaine d'étudiants. Donc, mm-hmm. Vous imaginez donc il n'y avait pas grand monde par spécialité.
Après les mines ça ouvre beaucoup de portes.
Ça permet de faire à peu près ce qu'on veut. Quoi.
Ouais, sauf
si on veut être médecin ou avocat, ça ne marche pas. Mais sinon, on peut faire quand même pas mal de choses. Et c'est pour ça que j'ai toujours choisi des voies assez généralistes qui ne me fermaient pas de portes. Donc ça, c'était une bonne illustration.
D'accord.
Et derrière, j'ai voulu... Donc quand il a fallu commencer à faire un choix, je ne savais pas très bien. Et je me suis lancé dans la finance d'entreprise qui était encore une fois assez généraliste. Quoi. Donc j'avais fait une spécialisation en finance. Et je suis parti chez BNP Paribas à New York, là, comme vous mm-hmm. mentionnez. Bon, c'était un VIE, c'était pendant 2 ans, donc là c'était vraiment, c'était cool quoi.
Ouais.
J'ai travaillé.
Une belle expérience.
Ouais, c'était pas violent quoi.
Pourquoi New York? C'était.
Parce que c'était sympa, j'avais à peu près 25 ans. C'était
chouette.
C'était
une belle
quoi.
Ville quand on a 25 ans.
2003, ouais. C'était entre 2003 et 2005, c'était chouette quoi.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai rencontré mon associé Pierre Haïdan.
D'accord.
Dont je parlerai après.
Donc un Français aussi, expatrié.
Qui lui faisait ses études, qui finissait ses études de droit à Harvard et qui commençait son premier boulot à New York.
D'accord.
Donc qui s'avérera devenir mon associé plus tard, ouais. Avec une casquette métier juridique. Quoi. Donc je fais ça. Ensuite, en sortant à la fin de mon VIE, je voulais quelque chose un peu plus intense que l'expérience VIE qui était franchement cool. Et j'ai été servi parce que je suis parti chez Goldman Sachs en fusion-acquisition à Londres et puis après à Paris. Donc là, c'est le...
C'était un peu plus... fusion-acquisition, c'est quand même beaucoup plus, plus intense.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus violent que ça.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Mais c'était top, c'était hyper instructif. J'étais franchement très bien formé là-bas. C'était les belles années en plus, donc il y avait plein de deals partout. Mm. Donc j'ai fait que 2 ans au final parce que ça permet de... C'est des années, c'est comme au Scrabble, quoi. C'est des années qu'on double ou qu'on triple. On apprend tellement vite, on a des portes de sortie assez rapidement, quoi.
Tout
et donc on est très sollicité par les fonds d'investissement quand on est dans ces écosystèmes-là.
Oui, il y a des chasseurs qui viennent vous chercher. Hein. C'est vrai que les fonds.
Au bout de 3 mois, on est déjà ouais. chassé. Et surtout à ce moment-là, c'était ouais. vraiment une période assez assez dorée.
Et parce
hein,
que là, quoi. C'était en 2000.
À partir de 2005, ça.
2005,
donc,
d'accord, oui.
C'était la belle époque. Ça remonte un petit peu, c'était avant la crise
avant
de 2008.
Avant la crise des subprimes, ouais.
Ouais, j'ai 2008, fait, ouais. Et donc je suis parti juste avant, j'ai eu un coup de chance, je suis parti au bon moment.
D'accord.
Et j'ai rejoint HIG Capital, qui est un fonds d'investissement US qui se lançait en Europe et qui ouvrait des bureaux à Paris, à Londres et puis en Allemagne. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour le bureau de Paris.
D'accord.
Et il y avait déjà une dimension entrepreneuriale dans le fait de rejoindre cette équipe qui se montait. Donc
d'accord.
il fallait tout construire. Je ne rejoignais pas un fonds qui existait, qui avait déjà pignon sur rue.
Et c'est ça qui vous a motivé en fait, excité.
Oui, clairement. C'est le côté entrepreneurial de l'aventure de rejoindre ce fonds-là était vraiment sympa. Et en plus, la diversité des tâches et des missions qu'on nous confie en tant qu'investisseurs était chouette. Quoi. Entre le caractère très financier, donc ça, j'utilisais ce que j'avais appris auparavant, et le côté beaucoup plus entrepreneurial, parce qu'on investissait dans des boîtes, dans des grosses PME, quoi. Donc dans des boîtes, c'était plus des boîtes du CAC 40, c'était vraiment la taille du tout. Et donc on échangeait énormément avec les entrepreneurs, et ce côté...
un peu plus familial, en fait.
Plus familial et beaucoup plus concret, quoi.
Ouais.
Plus opérationnel, plus concret.
Terrain,
je passais 50% de mon temps avec les entrepreneurs.
Donc hyper intéressant, en plus.
Super intéressant, et c'est franchement ça qui m'a donné l'envie derrière de non plus être investisseur, et travailler avec des entrepreneurs, mais être entrepreneur moi-même, quoi.
Et donc, petit à petit, vous avez vraiment...
Petit à petit, finalement, il y a quand même
Il y a
un vrai fil conducteur. Je voulais me former, puis progressivement, le passage de Goldman, du M&A au fond à l'investissement, ça s'était franchement drivé par cette envie d'être plus dans la stratégie, le business, pas encore l'entrepreneuriat, mais la stratégie de business, l'opérationnel, et moins la finance, quand même. Et derrière, ça m'a donné envie. J'ai rencontré des super entrepreneurs qui donnaient envie, en fait, quoi. Je voyais leur parcours, ils bossaient comme des bêtes, mais...
Il y avait une énergie
que je ne voyais pas ailleurs, quoi.
Et ça, c'était une énergie, elle n'était pas présente, j'imagine, chez Goldman Sachs, etc.
C'était une autre forme d'énergie. Ce qui est génial dans ces environnements-là, c'est que tu es entouré par des personnes... Il y a un niveau d'excellence qui est...
C'est des personnes plutôt bien câblées, on va dire.
Ouais, c'est ça. Si tu l'es pas, tu rentres pas ou t'en ressors vite, quoi. Mmh. Mais donc ça, c'est quand même extrêmement...
Motivant.
C'est très motivant, c'est très stimulant, donc t'apprends super vite. T'es challengé au quotidien. On faisait des horaires incroyables. Donc en fait, quand je disais une année, c'est une année qui compte double, en fait, c'est x10, quoi. Ouais. Donc on faisait des horaires de dingue. Mais avec il y avait une très bonne ambiance dans le bureau parisien de Goldman. Donc c'est un bureau relativement petit. On était une centaine, je pense, entre 100 et 2, enfin une grosse centaine, je pense. Mais donc ça restait à taille humaine, quoi. Restait à taille humaine et il y avait une forme d'émulation et de soutien. Les gens étaient sympas. Il n'y avait pas de compétition. Pas plus que ça. Et pourtant, c'était très pyramidal. Hein. Donc, en fait, pour passer au cap d'après, la pyramide se resserre, quoi. Donc, au final, il y a une forme de compétition, mais il y avait beaucoup de
bienveillance, en fait.
Il y avait de la bienveillance, il y avait de la formation et pas mal de personnes qui étaient là étaient... Enfin, comme moi, je savais que je ne voulais pas y rester 10 ans. Tu étais là pour te former, pour avoir une bonne expérience et ensuite trouver...
Ça t'ouvre d'autres portes, oui.
Ouais, c'est un marchepied, c'est un tremplin incroyable. Hein. Donc, on gagne des années d'expérience comme ça, quoi. Donc, c'était une... Enfin, je ne regrette pas du tout. Je me suis fait des très bons copains là-bas que je vois encore beaucoup. C'est très, très, très formateur. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins en vogue. Hein. À l'époque, donc on est quand même en 2005, ça faisait partie des voies d'excellence, quoi. On allait là-bas, tout le monde voulait aller dans ces... Enfin, que ce soit Goldman ou dans le conseil en stratégie ou dans les fusions-acquisitions, parce que c'était en vue. Je crois que maintenant, c'est un peu moins le cas, quoi.
Oui, encore. Enfin, c'est toujours très.
C'est l'entrepreneuriat fait beaucoup plus rêver. Enfin, l'entrepreneuriat était beaucoup moins présent à l'époque, il y a 15 ans. Maintenant, c'est plus le cas. Je veux dire,
Après, c'est vrai que c'est très courant de voir des consultants dans des cabinets de conseil qui prennent leur envol, en fait, hein, et qui créent leur propre boîte. C'est vrai qu'on voit ça hein, chez OBCG, chez Rollenberger, etc. Ouais. Il y en a beaucoup qui font ça. Ça donne envie. Après, est-ce que c'est aussi pas la période qui veut ça? On va en parler tout à l'heure, hein, mais justement, tout le monde veut se lancer, tout le monde veut devenir le futur Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc. Et puis au final, on s'aperçoit que c'est pas donné à tout le monde
C'est vraiment pas une fin en soi. Hein.
Ouais. C'est pas une fin en soi en plus.
C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Hein. Ouais. Il ne faut pas forcer, je pense.
Et alors, vous avez décidé de vous lancer, vous vous rendez compte que quotidien avec des entrepreneurs, discuter avec eux, ça vous motive, ça vous challenge, en fait. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est ça?
Exactement. Et en fait, pour la petite anecdote, je passais mes semaines à prendre des verres avec des copains, à réfléchir à des idées de business à la fin des... Quoi, début des années 2010, quoi, entre 2010 et 2012. Bon, alors il y a des idées assez farfelues qui sont sorties de là, mais rien de très sérieux. Et puis à un moment, on a commencé à travailler avec Pierre, donc mon associé, sur cette idée qui est devenue Legal Start, sur le marché. En fait, on voulait monter une boîte ensemble. On a regardé ce qui se faisait sur... lui étant avocat. Oui. Lui étant avocat, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a autour de son périmètre métier à lui? On a regardé ce qui existait en France, il n'y avait pas grand-chose. Ce qui existait à l'étranger, il y avait des belles boîtes, notamment aux US.
Les US sont forts pour ça.
malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais dans tous les cas, ils ont quand même souvent un temps d'avance.
Bien sûr.
Et il y avait une boîte qui a fait son IPO l'année dernière, d'ailleurs, qui s'appelle LegalZoom, qui existait déjà et qui avait le vent en poupe, et qui était grosso modo le Legal Start de l'époque là-bas, qui fonctionnait super bien et qui répondait à un vrai besoin utilisateur. Qui est celui que j'avais décrit, quoi. Les entrepreneurs étaient plus ou moins perdus face à l'étendue des démarches juridiques et administratives et les solutions qui existaient, donc on va dire proposées par les acteurs traditionnels, étaient qu'à moitié satisfaisantes, quoi. Donc il y avait de la place pour proposer une alternative une alternative sympa, simple, rapide, conviviale pour répondre à ce besoin-là. Donc on a creusé le marché en 2013. On a créé la structure en 2013. On a recruté donc vous avez compris, Pierre était ancien avocat, donc pas technique. Moi, j'étais généraliste, finance, stratégie, donc pas technique non plus.
Ouais.
Donc on a recruté Alexandre qui est devenu notre premier CTO.
D'accord.
Qui était un jeune qui devait avoir 2 ans d'expérience. Mm-hmm. Voilà, et donc était un jeune développeur qu'on a rencontré dans un meet-up. C'était assez, assez lunaire, assez amusant, et on est très bien tombé parce qu'on a travaillé, je crois, pendant peut-être 6 ans avec lui, 5-6 ans. Et donc on a parié sur lui, qui était tout jeune, et nous, on n'avait pas vraiment les moyens d'évaluer ses compétences. Donc on a dû faire un pari, et on a fait un pari gagnant, quoi. Donc il était top, il a vraiment fait un super boulot.
Donc il a développé la plateforme.
Il a embauché son équipe de développeurs. Et alors depuis, on a changé, on est CTO plus expérimenté aujourd'hui, mais il a fait les 5 ou 6 premières années de Legal Start super bien, quoi. Il a fait un travail fabuleux, quoi. Et donc voilà, donc ça c'était 2013, et début 2014, mars 2014, on était prêt pour lancer la première version de la plateforme Legal Start avec un seul service, c'était le service de création de société à l'époque. Et même une seule forme juridique, on pouvait créer une SAS, donc une société par action simplifiée, rien d'autre, quoi. On va faire ça, et donc on proposait un petit une interface qui était assez, qui était pas désagréable du point de vue de l'utilisateur. Et derrière, le back office était complètement manuel, donc on pédalait, c'était vraiment comme dans La vérité si je mens. Derrière le rideau, il y avait rien du tout, quoi. Donc le soir, avec Pierre, on était, lui comme moi, on était à la fois les commerciaux. Enfin, on faisait tout, quoi.
Bah oui.
On faisait tout. On était les juristes, les commerciaux, les. On les répondait sur le chat. Je me souviens, je me faisais appeler Estelle à l'époque sur le.
Ça passe mieux.
On avait une Estelle, et puis alors c'était resté Estelle. Il y avait même pas d'idée déplacée à l'époque là-dessus. C'était juste bon. Je me trouvais m'appeler Estelle, quoi. Et donc je devais. Attention à l'orthographe, quoi.
Ouais.
Ah, bref. Et eux, c'est ça. Donc ça c'était amusant, ça a duré quelques temps, et en fait ça a pris tout de suite. Donc ça nous a encouragé à accélérer sur le développement.
En fait, ouais. Ouais.
Et la beauté de Legal Start, c'est son business model. C'est ce business model qui nous permet d'autofinancer la croissance, quoi. Donc plus on grossit, plus on génère du cash, plus on génère du cash, plus on peut investir. Et voilà. Et donc c'est une boule de neige qui se constitue progressivement, qui grossit progressivement.
À vous entendre, ça paraît simple.
Non. C'est loin d'être simple. Hein. C'est loin d'être simple. Mais quand ça se met bien en place et que les étoiles s'alignent.
Quand c'est structuré, en fait.
Quand c'est structuré, on l'a bien structuré, quoi. Honnêtement. Enfin, ce qu'on a bien fait, c'est qu'on a bien structuré, on a bien exécuté. On avait un bon business model.
Ouais.
Et on a évidemment fait des erreurs, mais on n'en a pas trop fait. Bon,
pas des erreurs dramatiques.
On a fait des petites.
C'est quoi les erreurs que vous avez faites, par exemple?
Je pense que c'est des erreurs qui nous ont retardés. On aurait pu lancer plus vite le site. On aurait
D'accord.
pu. C'est compliqué de donner des exemples parce que c'est 1000 petits exemples qui vont pas vous parler.
Mais
c'est des petites erreurs qui nous ont retardés. On aurait
D'accord.
pu prendre des raccourcis.
D'accord.
Fait.
Ok.
Et voilà, c'est une.
Vous avez appris
de
vos erreurs?
Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je devais remonter une boîte, je sais que j'irais beaucoup plus vite, quoi.
D'accord.
Mais bon, c'est nécessaire de passer par là.
D'apprendre, oui.
Ouais, c'est ça. C'est pas suffisant qu'on te le dise, il faut le vivre.
Ouais.
Je pense.
Tout à fait.
Voilà,
c'est beau comme phrase.
C'est beau.
Autofinancement, vous avez refusé des levées de fonds?
Alors oui, depuis même avant qu'on lance le service, on commençait à nous solliciter pour investir dans la boîte.
Et des fonds à nous citer ou
ouais, des fonds. Alors ouais. progressivement ça a évolué. Donc
D'accord.
au début, c'était des petits fonds ou c'était ouais. des business angels, et puis après c'est devenu des fonds de VC, puis après c'est devenu des fonds de grosses.
D'accord.
Et puis
ouais.
après c'est devenu des fonds de LBO.
Et ça en doit fait, être gratifiant hein, de d'avoir
pas,
des fonds
pas,
qui tapent
des... un... Bah, c'est pas désagréable, hein.
Ouais.
Et on en a toutes les semaines, j'en ai encore qui tapent à la porte, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, on a mis en place un business model qui nous permet d'autofinancer notre croissance. Donc on a toujours refusé de lever des fonds pour accéléré ce développement parce que il y avait parce qu'on n'en avait pas besoin quoi. En fait, parce qu'on n'en avait pas besoin et qu'il n'y avait pas une opportunité identifiée qui nous permettait de manière certaine de dire si j'investis 100 ici, ça fera 300 demain. Et donc on voulait pas, on voulait rester maître à bord et ne pas se faire dicter notre stratégie par des investisseurs.
Oui, parce qu'après on est plus seul à décider.
Bah voilà. Ouais. Voilà. Donc en fait, on n'a jamais, donc on a toujours refusé.
Ça c'était important pour vous hein, d'être, de garder la main alors, sur.
Exactement. Et en fait, venant de cet univers-là, je savais tous les.
Bien sûr. Parce que oui, avant vous étiez dans un fonds, donc forcément vous savez.
Je connaissais les bons, les moins bons côtés. Ouais. D'avoir des investisseurs à bord, quoi. Ce qu'on a fait en 2019, c'est qu'on a fait rentrer quand même un fonds au capital, mais en lui cédant des parts. Donc on a fait rentrer un fonds, et donc mon associé et moi avons cédé des parts pour faire rentrer un fonds, mais c'était différent. Donc c'était pas une augmentation de capital, comme on voit aujourd'hui dans la presse, quoi. Et alors, donc ça, c'est top, et on avait la chance de pouvoir le faire, parce que notre business model nous le permet. Encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Tous les business models ne le permettent pas. Si vous avez un business model de SaaS, généralement, il y a un temps un peu plus long. Il faut constituer une équipe de commerciaux, il faut développer le produit, ça prend plus de temps. Ensuite, il faut aller chasser des clients. Tout ça, ça prend plus de temps. Donc, il faut financer cette partie-là. Donc, tu es plus ou moins obligé de lever des fonds. De la même manière, si vous avez un business model de plateforme, en fait, il faut créer d'un côté l'offre et la demande.
Bien sûr.
Et il y a une taille critique à atteindre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut financer. Pour d'autres business models comme le nôtre, c'était possible et ça aurait été franchement dommage de ne pas le faire.
Ouais.
Voilà. Et donc, il y a cet équilibre entre risque-reward qui est assez subtil, enfin, assez fin à trouver. Je pense que ça nous correspondait également assez bien à Pierre et à moi, quoi.
Ouais. Et alors, on en parlait en antenne, vous avez dû vous justifier auprès de vos collaborateurs, parce que c'est vrai que bon, c'était une euphorie totale. Hein. Il y a eu des levées de fonds énormes, colossales. Et puis là, bon, c'est en train de retomber. Hein. Le soufflet retombe, forcément, les taux d'intérêt remontent. Il y a moins d'argent en circulation. Hein. Il y aura moins de fonds qui investiront. Le temps vous a donné raison, au final?
Ouais, exactement. Alors, ça a été un vrai challenge, effectivement, de justifier auprès des équipes pourquoi on ne le faisait pas. Parce qu'évidemment, eux, ne voyant qu'une partie de l'équation, trouvent ça assez cool de voir cette euphorie qu'on a connue autour des levées de fonds stratosphériques de un tel ou un tel. Ça donne
c'était un peu à la mode en fait.
Bah, c'était une forme. On parle de la French Tech, on parle du Next. De tous ces groupes de start-up en fait qui sont jugés non pas sur leur performance, non pas sur leur métrique opérationnelle, mais uniquement sur le montant qu'elles lèvent et des montants qui sont assez stratosphériques sur des valorisations qui sur le papier sont assez stratosphériques. Mais ce qu'on dit pas derrière, c'est que les montages financiers qui sont mis en place par les investisseurs pour justifier ces valorisations, en fait, sont hyper protecteurs pour les investisseurs. Donc, en fait, ça va hyper bien si tout va hyper bien.
Bien sûr.
Donc, si tu continues à faire plus de 100% de croissance chaque année, ça ira bien. S'il y a un moment où ça ralentit, en fait, là, c'est... C'est le château de cartes. Et on voit aujourd'hui, sans citer de nom, mais un certain nombre de boîtes qui ont levé des montants très significatifs, qui sont en difficulté aujourd'hui, quoi. Et donc qui soit ferment, soit réduisent drastiquement les effectifs. Voilà. Et donc les employés chez Galstart, mais comme dans d'autres boîtes comme nous qui ont suivi cette trajectoire, voyez passer ça à droite à gauche. Et pourquoi nous on fait pas ça? Et un tel, lui, il a levé tant et du coup il va faire un... Ils partent tous en séminaire à Ibiza. Alors, j'ai dit, mais c'est pas le business model de la boîte, c'est pas d'emmener les gens en séminaire, quoi. C'est pas ça. Donc ouais. C'est pas de cramer n'importe comment, d'avoir les locaux les plus grands ou les plus je sais pas quoi. Non, le business model, c'est de développer, c'est de répondre à un problème du marché, c'est de trouver des utilisateurs, des clients, leur proposer un bon service, faire de la croissance de manière rentable. Si c'est creusé, c'est pas de creuser des pertes, quoi.
Bien sûr.
Et donc ça, c'est vrai que pour les gens de cet écosystème-là, c'est pas forcément ce qu'ils voient, quoi. Et ce n'est pas d'ailleurs ce qui est traduit par les médias. Hein. Ce qui est traduit par les médias, c'est le montant de la levée, la valorisation et éventuellement la croissance. Et si jamais il y a des ouvertures dans 10 pays, différents, c'est super cool. Sauf que généralement, en fait, la probabilité que ça fonctionne, elle est faible. Quoi. Elle est très faible. Donc pour certains, c'est top. Pour tous les autres, c'est vraiment pas bon.
En tout cas, ils sont en train de fermer un petit peu les robinets, parce que là, j'ai quelques chiffres, hein, près de 160 milliards de dollars donc ont été levés. Vous parliez de la French Tech, hein, parle de la French Tech, au premier trimestre 2022 dans le monde entier, et c'est 13% de moins déjà qu'en 2021. Qu'au dernier trimestre 2021. Donc ça, c'est d'après le site Crunch Base. Et depuis le début de l'année, il y a eu 129 nouvelles licornes, dans le monde. Et c'était, il y en avait eu 146 de septembre à décembre. Donc voilà, ça baisse. On va vers ça, en fait.
Mais tout baisse, en fait. Effectivement, il y a moins d'argent en circulation. Ah oui. La hausse des taux va avoir cet impact-là. Les échecs d'investissements importants qui ont été réalisés ces derniers temps vont freiner les ardeurs d'autres investisseurs. Les valorisations chutent. Donc, tout ça a quand même comme conséquence de fermer les robinets. Quoi.
Donc, vous avez fait peut-être bon choix.
Ouais, dans tous les cas, on est très content du choix qu'on a fait. Et aujourd'hui, on ne se prive pas de le dire aux équipes.
Au FA.
Ouais, de le dire au FA. Regardez, quoi. Regardez, vous avez un peu challengé sur le sujet, on vous a toujours expliqué ça.
Ouais.
Maintenant, regardez quoi. Maintenant, on a eu raison.
Ils comprennent.
Voilà.
Parlez-nous un petit peu donc de l'avenir à moyen terme, un peu plus long terme, de Legal Start.
Oui, donc aujourd'hui, Legal Start est présent en France uniquement. On s'exclut pas du tout de s'internationaliser
en Europe.
Plutôt en Europe dans un premier temps. Les US, en fait, le marché est déjà pris par l'acteur dont on parlait tout à l'heure. Donc en Europe, ça serait évidemment en Europe dans un premier temps. Mais avant ça, en fait, on a lancé une solution qui s'appelle Legal Start Pro, qui est destinée qui est une solution, l'équivalent de Legal Start, mais pour les professionnels, donc pour les avocats, les experts comptables, les notaires, pour adresser le marché qui aujourd'hui est encore adressé de manière traditionnelle. Si on regarde le marché des services pour les entrepreneurs, il est soit intermédiaire, donc ça passe par des experts comptables, des avocats, des notaires, etc., soit des intermédiaires, les gens font seuls ou avec une solution comme Legal Start. Et donc nous, pour aller capter 100% du marché et non pas uniquement la partie désintermédiaire, on lance cette solution Legal Start Pro qui commence à bien prendre. Donc là, on a déjà une centaine de cabinets qui utilisent la solution avec des retours utilisateurs super satisfaisants. C'est très encourageant. Donc on va investir là-dessus. On va vraiment renforcer les équipes là dans les prochains mois pour vraiment prendre ce marché-là. Et en parallèle, sur l'activité Legal Start, on va dire historique, l'objectif, c'est d'investir beaucoup dans la tech pour automatiser et encore améliorer l'expérience utilisateur, qui est déjà cool, mais qui sera encore plus cool.
Il faut toujours avoir un temps d'avance. Hein,
Oui. Il y a énormément, il y a vraiment pas mal d'améliorations qui sont en train d'arriver.
D'accord.
Et l'enjeu, c'est d'élargir la gamme de services qu'on va proposer. Donc aujourd'hui, vraiment juridique, on s'étend sur la compta. Je vais pas révéler. Ça sera l'occasion d'une autre interview. Je reviendrai pour en parler. Mais on a un certain nombre de services dans les cartons là qui vont arriver dans les prochains mois.
Bah écoutez, on a hâte de le découvrir en tout cas. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Timothée Rambeau. L'émission touche à sa fin. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'Objectif Startup et puis avec plaisir pour vous recevoir.
Super. Merci de m'avoir invité et j'espère à bientôt Alain.
À bientôt.
Au revoir.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.